Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. De nouveau ensemble dans nos lectures en liberté pour la suite du texte de Charles-Juliette Lambeau. Un jour, en fin d'après-midi après la classe, alors qu'il commence à faire sombre, tu entres dans la cuisine et constates qu'elle n'est pas là. Non plus qu'aucun autre membre de la famille. À l'angle de la table, pour ton goûter, une tranche de pain avec son morceau de sucre. S'ils sont absents, c'est qu'ils ont pris la route, qu'ils ne reviendront plus. En hurlant, tu cours dans la maison, tu te précipites à l'écurie, dans le hangar, ouvre la porte de la cave, appelle. Mais personne ne répond. De plus en plus affolé, tu cours de droite à gauche, va voir derrière le tas de bois, et soudain, tu l'aperçois au fond du jardin, où elle est en train de bêcher. Il lui fallut un long moment pour te calmer et t'amener à dire ce qui t'avait à ce point alarmé. La peur. La peur a ravagé ton enfance. La peur de l'obscurité. La peur des adultes. La peur d'être enlevé. La peur de disparaître. Le matin à l'aube, quand tu mènes tes vaches paîtres, et que loin du village, longeant des bois, tu t'enfonces dans la campagne déserte et silencieuse, tu ne cesses d'être aux aguets, de te retourner, de scruter le moindre buisson, de surveiller ce qui t'est proche tout en promenant un regard circulaire sur les lointains. Pour te rassurer, tu te tiens au plus près des vaches. Tu as cet espoir que peut-être elle pourrait te défendre. Parfois, à voix basse, pour ne pas alerter le voleur d'enfants qui s'apprête à bondir et se saisir de toi, tu leur parles. Le son de ta voix t'aide à te sentir moins seul, moins menacé, et la présence des bêtes te réconforte. Mais le pire, ce sont ces soirs d'hiver où il faut aller chercher du vin à la cave. Chaque pas, chaque geste mis au point en vue de ne pas faire durer la terrible épreuve une seconde de plus. Sortir, plonger dans la ténèbre, traverser la cour, ouvrir la porte d'une main ni trop lente, ni trop rapide, éclairer, dévaler les escaliers avec ce sentiment que tu t'enfonces graduellement dans l'abîme. La lumière avare qui n'éclaire qu'un faible espace et laisse dans l'ombre le tonneau près duquel tu dois attendre interminablement que ton pot se remplisse. Le robinet haï qui ne laisse couler qu'un mince filet noir, le sang qui bat aux tempes, les oreilles qui bourdonnent, puis remonter. T'empêcher de gravir les marches 4 à 4, veiller à ce que le vin ne s'échappe pas du pot tenu par une main qui tremble. Éteindre, refermer précautionneusement la porte. Mais la serrure qui grince et risque de signaler ta présence. La cour traversée en 3 bonds, la lumière retrouvée de la cuisine. Attendre un instant dehors, appuyé contre le mur. Reprendre haleine. Laisser le cœur se calmer. Retrouver la possibilité d'entendre et de parler, puis, bravement, pousser la porte et reprendre ta place à table, comme si rien ne s'était passé. Chaque fois terrifié, chaque fois dans un tel état que tu t'approchais de la folie. Tu aimes beaucoup ton père. Le plus clair de son temps, il le passe assis près de la fenêtre et tu te tiens près de lui, debout, appuyé contre sa jambe. Vous n'échangez aucune parole et de temps à autre, il te frotte la tête de sa lourde main rude. Il a une curieuse pipe en S avec un fourneau sculpté qui descend au-dessous du menton et qui est fermé par un petit couvercle muni d'une chaînette. Tu admires cette pipe. Et parfois, il t'accorde le privilège d'ouvrir son paquet de tabac, de la lui bourrer, puis de craquer une allumette. Regard dans le vague, visage maussade, il est en permanence plongé dans une profonde tristesse. Et souvent, il pleure. Quand il avait 25 ans, il a été victime de la grippe espagnole, cette épidémie qui a gagné plusieurs pays d'Europe et s'est révélée plus meurtrière que la grande guerre qui venait de s'achever. Mais comme il était doté d'une forte constitution, il a survécu. Toutefois, il a perdu ses cheveux, ses dents et depuis reste sujet à des accès de neurasthénie. Le jour où il faut vendre la sultane, la plus belle vache de votre maigre troupeau, tu es debout entre ses jambes. Son menton s'appuie sur ton crâne et il te serre contre lui. Ses larmes glissent dans tes cheveux, sur ton front, tes joues, tes lèvres. Il pleure. Le départ de la vache. Et tes larmes se mêlant aux siennes, tu pleures de le sentir si malheureux. L'âpreté et l'austérité des vies qui mènent un incessant combat pour tenter de faire reculer la misère, chacun travaillant dur dans le seul but d'avoir simplement de quoi subsister. On ne sait dans ta famille combien il est important qu'un enfant aille à l'école. De Pâques à la Toussaint, pour pouvoir garder tes vaches, tu cesses d'aller en classe. 7 mois sans lire une page, sans revoir ta table de multiplication, sans effectuer une opération, de sorte qu'en novembre, quand tu te retrouves face à l'instituteur parmi ceux qui n'ont jamais manqué, tu ne sais absolument rien. La crainte d'être le cancre de la classe. Chaque soir de ce premier mois d'école, une grande sœur s'occupe de toi et te fait réapprendre ce que tu as oublié. À la belle saison, tu es le plus souvent dehors. T'occupes à nourrir les lapins, couper du petit bois et trier une vache. Mais il arrive que tu te précipites soudain à la cuisine. Il te faut impérieusement la voir, te repaître de son visage, lui prendre la main, te serrer contre elle. Elle te parle peu, ne te gronde jamais. Et ce qu'elle a à te dire passe dans son regard. Aussi le tien est-il souvent à l'interroger. Elle ne cesse de travailler à l'écurie, au jardin, dans les champs, à la maison. Et elle a toujours un air triste, soucieux. Mais jamais elle ne se plaint ni ne se récrimine. Tu l'entoures de menus attentions, par exemple, tu surveilles les arrosoirs. Dès qu'ils sont vides, tu t'en empares et cours à la fontaine. Mais quand tu reviens, ils te paraissent bien lourds, tu as du mal à les porter, à empêcher qu'ils ne raclent le sol, et tous les 2 ou 3 pas, il te faut faire une pause. Ce jour-là, quand tu rentres de l'école, plusieurs personnes occupent la cuisine. Et tu perçois une certaine tension. On te demande d'aller chez les voisins et cela te paraît inquiétant. Lorsqu'on te permet de revenir, tu apprends qu'un petit frère est né. Tu es fou de joie. » Mais celle-ci est assombrie par le fait que la mère est un peu malade et doit garder le lit quelques jours. La torpeur de ce jour d'été. Le silence. Le bourdonnement des mouches. Le bruit sourd d'une chaîne frottant une mangeoire ou celui d'une vache se frappant le ventre d'un coup de pied pour tuer un temps. Tu rentres à la cuisine, pénètres dans une sorte de grand placard obscur où se trouve l'évier, et, tâtonnant, tu prends un verre, le plonges dans l'arrosoir. L'eau tiède est fade et ne désaltère pas. Ta mère te prend par le bras et, avec douceur, t'apprend que tu as une autre mère, qu'elle était à l'hôpital et qu'elle vient de mourir. Debout en plein soleil, appuyée contre le mur sous la treille, tu n'es ni triste, ni bouleversé. Tu te sens simplement bizarre.
Pour tout bagage, on a 20 ans, on a l'expérience des parents. On se fout du tiers comme du quart, on prend le bonheur toujours en retard. Quand on aime, c'est pour toute la vie, cette vie qui dure l'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un blue jean, et pour le reste on imagine. Pour tout bagage, on a sa gueule, quand elle est batte, ça va tout seul. Quand elle est moche, on s'habitue, on se dit qu'on est pas mal foutu. On bat son destin comme les brèmes, on touche à tout, on dit je t'aime. Qu'on soit de la balance ou du lion, on s'en balance, on est des lions. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a des réserves de printemps, qu'on jetterait comme des miettes de pain à des oiseaux sur le chemin. Quand on aime, c'est jusqu'à la mort, on meurt souvent et puis l'on sort, on va griller une cigarette. L'amour ça se prend et puis ça se jette. Pour tout bagage, on a sa gueule qui cause des fois quand on est seul. C'est ce qu'on appelle la voix du dedans. Ça fait parfois un de ces boucans. Pas moyen de tourner le bouton de cette radio. On est marron, on passe à l'examen de minuit. Et quand on pleure, on dit qu'on rit. Bagage, on a 20 ans, on a une rose au bout des dents qui vit l'espace d'un soupir et qui vous pique avant de mourir. Quand on aime, c'est pour tout ou rien, c'est jamais tout, c'est jamais rien, ce rien qui fait sonner la vie comme un réveil au coin du lit. Pour tout bagage, on a sa gueule devant la glace quand on est seul. Qu'on ait été chouette ou tordu, avec les ans tout est foutu. Alors on maquille le problème, on se dit qu'il n'y a pas d'âge pour qui s'aime. Et en cherchant son cœur d'enfant, on dit qu'on a toujours 20 ans.
Lecture en liberté, Denis Flageul.
Charles-Juliette Lambeau. L'enterrement. La maison où elle a vécu et où le père habite. Tu fais sa connaissance et aussi celle de tes frères et de ta sœur. De violentes émotions. Un état de stupeur. Tu voudrais voir le visage du père, mais ton regard reste obstinément rivé sur le bout de tes chaussures. Comme ton costume, celles-ci ont d'ailleurs été empruntées et elles te font mal. La petite église, si différente de celle que tu connais. Pendant la messe, tu penses à cette mère enfermée dans le cercueil. Tu voudrais voir son visage, ses yeux. Et pourquoi était-elle malade ? Tu voudrais prier pour elle, mais en cet instant tu ne sais plus tes prières. Tu songes à ta mère, celle près de laquelle tu vis, tu te retiens de pleurer. Quand le cortège arrive près de la batteuse, le ronflement du moteur s'arrête. Les hommes se figent, enlèvent leurs casquettes, inclinent la tête le temps que passe le corbillard. Le petit cimetière parmi les champs, plus loin le marais, les tas de terre de part et d'autre de la fosse, les pleurs étouffés des femmes, le bruit des pelletées de terre jetées sur le cercueil et qui retentissent longuement dans la tête. Depuis ce jour de tes 7 ans, tu n'as jamais aimé l'été. Depuis 2 ans, la France est soumise à la domination ennemie, mais l'occupant n'a pas envahi votre région. Des maquis se sont constitués et ils se cachent dans les villages et les fermes isolées de la montagne. Au cours de l'hiver suivant, une colonne allemande est dépêchée dans cette région pour liquider ses résistants. Ceux-ci sont introuvables, mais la répression est féroce. Dans le village où tu es né, plusieurs maisons ont été incendiées et les hommes fusillés. Leurs corps enchevêtrés, dont il était interdit de s'approcher, sont restés plusieurs jours dans la neige. Ton père, de la montagne, a échappé au massacre par le fait qu'il s'était rendu dans la plaine pour assister à un enterrement. Comme il remontait à pied dans son village, on l'avait prévenu et il avait rebroussé chemin. Les maquisards sortent de l'ombre et on les voit passer dans des voitures avec leurs mitraillettes. Certains sont même connus de toute la région pour avoir effectué des opérations insensées au cours desquelles ils ont éliminé de nombreux Allemands. On parle de coups de main, de voies ferrées qui sautent, de plasticage, et tu acquiers de très vagues connaissances sur les armes que possèdent les maquisards. Un jour, tu soutiens à la mer qu'avec une grenade, on peut faire sauter le pont à plusieurs arches qui franchit à paix la rivière coulant dans la plaine. Elle t'explique que ce n'est pas possible. Tu affirmes que si, t'entête, veut la convaincre qu'elle ne comprend rien à ces choses. Alors, comme elle voit qu'elle ne peut te faire entendre raison, en éclatant de rire, elle lance « Mais regardez-le, ce petit boche !» Boche, l'injure suprême, celle qui te rejette dans le rang des ennemis. Te range aux côtés de ceux qui déportent, torturent, massacrent, incendient, et qu'une telle injure soit proférée par celle qui ne t'a jamais grondé, jamais adressé la moindre remontrance. Tu es anéanti. Elle doit te prendre sur ses genoux et elle a toutes les peines du monde à apaiser tes sanglots. Une semaine plus tard, jour anniversaire de tes 10 ans, tu prends de solennelles décisions. Tu ne dois jamais tenir tête à la maman. Tu ne dois jamais la contrarier. Tu ne dois jamais lui faire de peine. Tu écris ces mots sur une feuille de papier que tu gardes dans ton cartable. Ils auront à te rappeler de temps à autre les engagements que tu as pris. Votre voisin est un solide gaillard d'une 30aine d'années. Lui aussi est paysan, mais il doit s'arrêter de travailler. Il tousse, a de la difficulté à respirer et un jour les examens révèlent qu'il est tuberculeux. Ses bêtes vendues, il n'a rien à quoi s'occuper et il traîne dans le quartier. En hiver, chaque soir, il vient jouer chez vous à la belote. À sa suite, le malheur entre et s'installe pour longtemps dans la maison. Tu as réussi ton concours d'entrée à l'école d'enfants de troupe d'Aix-en-Provence et c'est le moment du départ. La mère pleure et le père pleure aussi, qui fait les 100 pas dans la cour. Tu voudrais dire à la mère que tu travailleras pour qu'elle soit fière de toi et que tu lui écriras souvent. Mais les mots restent pris dans ta gorge. 3 sœurs également sont là qui t'entourent et aussi ton cher petit frère. tu es déchiré et tu luttes contre les larmes. Tu crains de n'avoir pas le courage de partir. Te voici devenu un petit militaire. On t'apprend à marcher au pas, à faire un demi-tour réglementaire, à saluer un supérieur, à présenter la chambrée à l'appel du soir. Tu fais partie de la première section, de la première compagnie qui compte 120 élèves. Tous ces garçons venus des quatre coins de la France, tous ces visages, tous ces anciens que tu regardes avec crainte et admiration. Au cours de ces premières semaines, il se passe tant de choses que dans le courant de la journée, tu n'as pas le temps de penser à ta famille. Mais le soir, quand le clairon sonne l'extinction des feux, que tu t'enfouis sous ta couverture, tu vois surgir les visages de ta mère, ton petit frère, ton père, tes sœurs, ton grand frère. Et tu dois lutter contre la montée des larmes. En classe, lorsqu'on vous indique les matières que vous aurez à étudier, tu es profondément indigné de ce que l'allemand soit à votre programme. Tu trouves choquant que vous soyez obligé d'apprendre la langue de l'ennemi, la langue de ceux qui, près de chez toi, ont incendié des fermes et fusillé les hommes du village. Le petit paysan que tu es décide qu'il se refusera à étudier cette langue. L'étude du dimanche soir est réservée à la correspondance. Mais ces deux heures durant lesquelles tu tentes d'écrire à ta mère, elles te laissent immanquablement déçu et irrité. Tu voudrais lui raconter ce que tu vis, fais, éprouve, lui confier combien tu t'ennuies d'elle et du petit frère, mais tu n'y parviens pas. Dès que tu te mets à penser à eux, une violente émotion t'envahit et les mots dont tu as besoin ne te viennent pas. La fin de l'étude approche, que tu en es toujours au « chère maman ». Alors furieux contre toi, tu griffonnes en toute hâte quelques sèches et banales phrases qui n'expriment rien de ce que tu tenais tant à lui dire. Au terme de ces deux heures, tu te promets chaque fois d'être particulièrement attentif pendant les cours de français, d'acquérir du vocabulaire, de soigner tes rédactions. Il faut qu'un jour tu sois capable de lui écrire des lettres où elle pourra lire tout l'amour que tu lui portes. Ta seconde année démarre sous de bons auspices. Tu as le même chef de section que la première année et en plus de son service à la compagnie, il enseignera désormais le noble art. Il a naguère été champion de France militaire dans la catégorie des poids moyens. Et pour plusieurs raisons, tu l'admires. Aussi, quand on te demande quel sport tu veux pratiquer, tu choisis évidemment la boxe. À peine as-tu appris quelques rudiments aux côtés des débutants de ton âge, qu'ils organisent des combats entre vous. Ils aiment vous voir vous flanquer de sérieuses peignées, s'esclaffent bruyamment quand l'un de vous se fait descendre et reste étendu pour le compte. Lors de ces combats de 3 rounds de 2 minutes, afin d'attirer son attention, de gagner peut-être son amitié, tu t'emploies à prouver que tu ne crains pas de recevoir des coups et que tu ne détestes pas en donner. Parfois, tu saignes du nez, vois des étoiles papilloter devant tes yeux, ou, sonné, épuisé, te retrouves au tapis sans avoir la force de te relever. Mais rien ne saurait rebuter l'ardeur dont tu fais montre. Le dimanche, le chef vient te chercher à la caserne et tu as l'indicible joie de passer la journée chez lui. Parfois, alors qu'il est de service et doit retourner à la caserne, tu restes seul avec sa femme, ce qui n'est pas tellement pour te plaire. Tu es timide et sombre, farouche, et tu ne sais que lui dire ni comment te comporter. Pourtant, dimanche après dimanche, et si le chef est présent, elle s'arrange pour avoir des moments où être seule avec toi. Elle t'apprivoise. Trouve les mots qui te dénouent. font tomber ta peur. À voix basse, elle t'apprend qu'elle s'ennuie, qu'elle est malheureuse, que toute la semaine, elle attend ta venue avec impatience. Voilà donc pour ce soir la suite de ce texte de Charles-Juliette Lambeau que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guillon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.